Résidence en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Et aujourd'hui, quelques mots gourmands de plus sur le livre de la domination, Essai sur les falsifications du pouvoir aux éditions Libres et Solidaires. Car s'il est une préoccupation humaine dont la vacuité est impressionnante, c'est bien celle qui consiste à donner des ordres, à commander ou à dominer. Le petit chef se croit-il investi d'une mission particulière parce qu'il déciderait ? Mais bien au-delà de cette apparence, le dominant est inquiet, mêlant sa propre anxiété à l'épisode maniaque de sa suffisance. Qu'importe. L'organisation sociale de la dominance fait une institution de la domination en des hiérarchies répétées qui prétendent toujours que la fonction sociale serait de nous protéger et que la dominance est issue de la nature des choses et des animaux et de toute autre chose. Car certains disposeraient d'une sorte de talent inné pour nous aider à vivre. Des gènes de l'autoritarisme en quelque sorte. Alors je reçois aujourd'hui le philosophe Tony Ferry, avec qui nous allons fouiller au fond de la philosophie et des théories biologiques pour ajouter quelques éléments encore sur cette question dont nous avons fait un livre. Enfonçons-nous dans Aristote et Descartes avant de visiter Darwin et les sales prétentions qu'ont certains humains à trouver naturel leur déploiement de rapports de force. Vous êtes sur Radio Libertaire, une radio associative, pas comme les autres.
Sabimos, si te miras la brigada, sos el mono. per darle un pugno.
Cosa che sono solo pila, scusa che io lo sciavo. Anche la testa.
Nel morro qua, il baro Luis, il baro Rai, tira gli asla.
Dai, voglio che era per peschinata, raggita nelle case state tra i.
Un di penal, chi da scatani sciave, da su me cuttusche, e per sciusche, e cabriche.
Le botume che sciave, che colle, che titti da, sa mette tanti, sta romane sciave, da la slanchere, la da. Cristo, il che era la slanai, voglio.
C'était Ando de Rome. Aujourd'hui, sur Radio Libertaire, nous recevons un invité, le philosophe Tony Ferry, pour parler de la nature de la domination.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois donc dans cette émission exceptionnelle le philosophe Tony Ferry pour parler d'un ouvrage intéressant de la domination, essai sur les falsifications du pouvoir, dont il a traité de la partie essentiellement philosophique. Mais nous allons évidemment essayer de voir ça avec l'œil avisé du scientifique. Que reste-t-il de scientifique dans la philosophie ? C'est assez discutable tout ça. En tout cas, Tony, tu es là. Merci d'être venu. Et bien entendu, la question que se posent immédiatement tous nos auditeurs, c'est Tony Ferry, qui es-tu ?
Oui, bonjour à tous. Bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs. Je suis bien content de cette invitation. Je voulais d'abord quand même le signifier haut et fort. C'est pour moi un grand plaisir et même un grand honneur que d'être présent au sein de la radio libertaire, cette grande radio. Dont les ondes sont émises sur la région parisienne, dont je suis. Et c'est très agréable de pouvoir écouter les émissions, dont celle-ci à laquelle je participe aujourd'hui, puisqu'elle concerne effectivement la question scientifique et plus particulièrement la question biologique. Alors, qui suis-je ? Je suis philosophe, docteur en philosophie, donc philosophe de formation. Je suis également chercheur associé au laboratoire GERFO, qui est un laboratoire parisien. GERFO, c'est un sigle qui veut dire groupe d'études et de recherche en architecture, en philosophie, en architecture et en urbanisme. Ça fait donc quelques années que j'y suis affilié et j'y trouve un grand plaisir effectivement pour y réaliser une partie de mes recherches.
Alors commençons par le commencement. Tu n'es pas n'importe quel philosophe, tu t'intéresses à des sujets particuliers, à des sujets très précis, qui tournent principalement sur les questions de la prison, sur les questions de l'enfermement. Tu as écrit d'ailleurs Absolument. Une multitude d'ouvrages à ce sujet, je ne saurais tous les citer.
Oui effectivement. Oui, parce que j'exerce également le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du ministère de la Justice, depuis maintenant près de 16 années. Les années passent effectivement. Et donc à cette occasion, ma philosophie, mon parcours m'ont permis effectivement de m'interroger sur les questions relatives à la pénalité, à l'enfermement et à la punition. C'est-à-dire au fond, comment dans nos démocraties modernes, en tout cas comment en France plus particulièrement, on perçoit la punition et comment on l'exerce, comment on l'exécute au sein de nos institutions. Et j'ai voulu donc interroger depuis effectivement plusieurs années cette manière de punir, parce que ça en dit long sur notre société, sur nous-mêmes aussi, à l'occasion donc d'un certain nombre de publications portant plus particulièrement sur la punition, un de mes premiers grands ouvrages a pour titre effectivement « Qu'est-ce que punir ?» Du châtiment à l'hypersurveillance.
Et parmi tous les autres, il y a également la condition pénitentiaire, essai sur le traitement corporel de la délinquance, le pouvoir de punir, qu'est-ce que c'est que d'être frappé d'une peine, enquête de réel, la compulsion de punir, éloge du pilori, punition et risque, emprisonné et surveillé, pouvoir et politique pénale. C'est ton dernier, je crois d'ailleurs, pouvoir et politique pénale, de la prison à la surveillance électronique chez Libre et Solidaire en 2016. Différents éditeurs t'ont accueilli pour présenter tes thèses. Et évidemment, tes études de cette question particulière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'étude d'Aristote à celle de la prison ?
Alors, effectivement, ce n'est pas si évident parce que durant mon parcours de philosophe, en tout cas à l'université pour commencer, la question des prisons n'est pas du tout à l'ordre du jour en philosophie. Et très peu d'auteurs ont effectivement traité de cette question en philosophie. Plus récemment, effectivement, on connaît le grand Michel Foucault, qui est un des rares grands philosophes d'aujourd'hui, qui a une acuité contemporaine et actuelle éminente, qui a traité de la question des pénalités, en particulier de la question de la surveillance et de la prison. La manière dont la prison est née en France et qu'est-ce que ça veut dire que d'enfermer des gens sous prétexte qu'on doit les punir.
Et dans son livre célèbre « Surveiller et punir ».
Exactement. Il a publié en 1975, qui est un ouvrage maître et effectivement Pertinent, une grande référence.
Oui. Et de référence.
Oui. Oui. D'ailleurs, à tel point que j'ai découvert dans le cadre de mes études de philosophie Michel Foucault assez tardivement. Et je l'ai découvert au moment où j'ai intégré l'institution judiciaire, au moment où, effectivement, j'ai été lauréat du concours de CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, au sein du ministère de la Justice. Et ce qui était quand même assez extraordinaire, c'est qu'au moment où je découvrais l'institution, je découvrais Foucault aussi, parce que Foucault n'avait pas vraiment la cote il y a 20 ans lorsque j'étais jeune étudiant. Aujourd'hui, il l'a beaucoup plus, même c'est le contraire, tout le monde cherche à récupérer Foucault et des fois mal à propos,
j'ai envie de dire. On se réclame de Foucault, mais on n'en est pas toujours bien des bons lecteurs.
Exactement. Et donc, vraiment, la petite anecdote, c'est que j'ai découvert le terrain, la pratique judiciaire, au moment où je découvrais aussi ce grand philosophe incontournable, un des rares, un des seuls, ayant traité de cette question-là, dans le même moment. Et effectivement, je prenais conscience des intuitions et des fortes analyses qu'avait cet auteur, parce que effectivement j'avais l'impression de trouver les illustrations de ce qu'il décrivait lorsque je pratiquais et que je découvrais l'institution.
Et donc nous nous sommes rencontrés, nous deux aussi, presque sur ces questions-là, puisque c'est à travers une pétition qui avait été lancée par un de tes amis, c'est ça ou...
Alors effectivement, enfin, il l'est devenu, Samuel Gauthier, hein, voilà. Qui est un ancien de l'OIP, et qui avait effectivement adressé
L'Observatoire des prisons.
L'Observatoire international des prisons, excusez-moi, oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup de sigles, et c'est bien de me reprendre.
Et donc, tu es un single man.
Exactement. Et surtout qu'en travaillant dans les administrations, dans une administration, on prend le mauvais pli d'utiliser des acronymes ou des sigles. Et donc Samuel Gauthier, effectivement, qui est devenu un ami, on est plus ou moins resté en contact, notamment par Internet, parce qu'il a aussi beaucoup de projets, notamment un projet de création d'un placement à l'extérieur. C'est lui donc qui nous avait sollicité dans la perspective d'émettre sur Mediapart une tribune appelant à l'abolition des prisons, avec une belle argumentation plutôt. Et bien sûr, j'y avais souscrit dès demain, puisque effectivement, il y avait un appel derrière à l'humanisme et puis à essayer de bousculer un petit peu les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir, les fausses représentations, afin de déplacer les frontières entre ce qui est possible de faire, ce qui n'est soi-disant pas possible de faire dans le monde judiciaire. Donc on s'est effectivement, Thierry, rencontré à cette occasion, à l'occasion de cette signature.
Voilà comment un biologiste peut croiser un philosophe à un moment donné pour effectivement parler de cette question carcérale d'une manière particulière. Alors ça va plus loin que la question carcérale, parce qu'évidemment, d'un point de vue philosophique, tu as aussi abordé tout ce qui peut toucher autour du pouvoir, des relations de domination, bien sûr. Et c'est ça l'objet de ce fameux livre dont nous allons aussi parler aujourd'hui, qui est donc, je le répète, le livre de la domination, essai sur les falsifications du pouvoir chez Libre et Solidaire. Et donc, à cette occasion, tu as davantage traité de cette question de la nature de la domination, on va en reparler. Mais continuons à comprendre un peu quel est ton parcours. Car à travers tout ça, évidemment, tu mènes toute une série de recherches qui sont propres au monde carcéral, mais qui peuvent aussi t'emmener probablement dans d'autres perspectives. Raconte-nous un peu tout ça.
Oui. Alors oui, mais mes recherches quand même s'articulent autour de principalement de la question à l'heure actuelle, la question du sens des pénalités, de leurs enjeux et même du sens de la punition, puisque la punition c'est quelque chose de plus précis que les pénalités. Les pénalités s'organisent autour effectivement de la légalité, d'un certain type de pouvoir, d'une certaine représentation du pouvoir et du rapport au monde et du rapport qu'on peut avoir avec les citoyens et les justiciables. Donc je m'intéresse à la question des pénalités, mais aussi à la question de la punition, parce que là, la punition, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret et de pratique. Il s'agit d'exécuter selon une manière de se représenter la faute, le crime, de manière générale, le délit. Il s'agit donc, à travers cette représentation, d'appliquer des sanctions, ce qu'on appelle des sanctions, ou des formes de punition, soi-disant indexées sur des formes du respect de l'humain. Cela dit, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire concernant justement l'humanisation des pénalités. Et ça, ça me préoccupe beaucoup. Alors, c'est pas toujours évident parce que comme j'ai un pied dans l'institution, parfois un institutionnel pourrait me dire mais vous êtes trop critique, trop du côté des condamnés et pas assez un institutionnel. Parfois, c'est le contraire. Un condamné pourrait me dire « mais vous êtes un institutionnel, donc vous êtes trop du côté de l'autorité, trop du côté donc, du pouvoir, et par conséquent, vous ne comprenez pas assez nos problématiques à nous, du terrain, etc. Bon. » Il y a une partie vraie dans cela. En même temps, je crois que c'est pas confortable, mais intéressant d'être à l'injonction entre justement l'extérieur et l'intérieur, l'extérieur des pénalités, de leur exercice, et à l'intérieur, car ça permet de faire une jonction et d'essayer de comprendre, de faire un lien entre justement ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, essayer de faire bouger les lignes et pourquoi pas essayer de trouver d'autres modalités de prendre en charge ce qu'on appelle nous aujourd'hui la délinquance et de faire éventuellement d'autres propositions, d'essayer de faire bouger les lignes. Certes, il s'agit de ne pas croire qu'on a un pouvoir extraordinaire dans la capacité de faire évoluer les choses, mais même si fébrilement on arrive à faire bouger les lignes à l'intérieur, c'est déjà gagné, il y a déjà une victoire. Donc voilà, faire un travail de jonction, un travail social en quelque sorte, entre l'extérieur et l'intérieur. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup la théorie, j'aime beaucoup la recherche, je suis un passionné de recherche, mais en même temps je suis très très sensible à la pratique et j'ai du mal à m'en arracher, j'aime ce que je fais, voilà.
Oui, d'autant qu'il y a des gens que tout ça concerne, puisque évidemment il y a une population carcérale, évidemment la question déborde largement de la philosophie ou de la nature même de ce qu'est la domination ou de la biologie, et que nous allons forcément petit à petit parler de personnes humaines.
We'll be right back.
écoutiez Archennemi. Nous revoilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité, dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois.
Où je reçois aujourd'hui Tony Ferry pour parler de la domination et de sa nature. Alors Tony, qu'en est-il de cette domination? Comment est-ce qu'on peut la comprendre dans l'histoire et dans la philosophie?
Alors oui, c'est une question vaste et complexe, la domination, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'elle a toujours existé depuis que les sociétés humaines ont vu le jour. Pour en retrouver l'origine, c'est pas simple, c'est complexe justement. Et à la lumière de la philosophie, je crois qu'il faut, pour essayer d'avoir effectivement une idée essentielle sur l'avènement d'une pensée liée à la domination, je crois qu'il faut remonter donc aux anciens et notamment à Aristote, même si Aristote n'a pas formulé explicitement une théorie de la domination. On ne peut pas, aucun historien ne dira chez Aristote il y a une théorie de la domination. N'empêche que sa philosophie, qui s'insère dans les problématiques de l'époque de l'Antiquité, permet quand même d'ouvrir sur une manière d'envisager la domination, et même la souligne avec de nombreux traits. C'est ce que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui, parce que dans l'émission qui nous occupe aujourd'hui, qui est plutôt scientifique et biologique, je vais quand même m'axer sur la question de la domination à la lumière de la philosophie, mais moins à la lumière du politique ou du social, même si chez Aristote, il y a un ancrage. Et je ne peux pas en faire l'économie, on va un petit peu en discuter, tout en essayant de rester quand même dans les axes scientifiques. Donc, pour parler en introduction, je dirais que la domination est d'avant tout d'ordre politique, parce qu'elle se rapporte à l'idée d'autorité, à l'idée de maîtrise. D'ailleurs, l'étymologie de domination, c'est le maître, hein, dominus, la maîtrise, le maître. Et donc, que cette autorité soit acceptée ou refusée par les subordonnés, il n'empêche qu'elle s'exerce pleinement. On l'observe ici ou là et dans de nombreuses civilisations, dans de nombreuses sociétés. Donc son champ d'application est avant tout social et politique. Pas seulement, on est d'accord, mais surtout. Puisque je dirais que les dominés sont placés au-dessous des dominants, que leur position est désignée politiquement ou socialement comme inférieure. Alors, on va en retrouver des traces chez Aristote, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment avec sa notion de koinon en grec, hein, c'est le commun. Aristote, c'est le grand penseur, le premier grand penseur du commun dans l'Antiquité. Alors, au niveau des fondamentaux chez Aristote, je dirais que dans la perspective aristotélicienne et la perspective de l'époque antique, le monde est régi par un ordre hiérarchique, clos et finalisé. Ce qui aujourd'hui, pour nous, est complètement incompréhensible. Pas totalement, mais c'est une autre époque.
Oui, parce que ça, c'est tout l'univers qui est forcément dans cette structure particulière.
Exactement. Et donc, dans cette perspective-là, chaque être est compris comme ayant une place ou tient sa place dans l'univers, effectivement, en fonction de sa nature, en fonction aussi de ce que Aristote appelle son genre et sa différence spécifique. Et donc, la notion de place ou de position, il faut bien partir de cette idée-là, hein, la notion de place ou de position se pense comme place ou position naturelle. Position naturelle qui échoit à chacun, par conséquent, en fonction de qualité intrinsèque, en fonction de ce que les Grecs anciens nommaient la vertu, l'arete en grec. Pour bien comprendre cette idée-là, c'est que le bien le plus élevé pour un être consiste à faire son œuvre propre. On trouve ça dans le politique, son idée de l'idée d'Aristote, et même dans l'éthique nicomaque. Chaque être doit accomplir son œuvre propre et recevoir son dû, tout cela donné, inscrit naturellement. Donc en accomplissant sa fonction, c'est-à-dire ce à quoi il est destiné, et à partir aussi du recours à la raison, ou du logos, le fameux logos, qu'on doit comprendre ici comme faculté de discernement pour bien agir. Politiquement, pour bien agir politiquement, parce que le logos, dans la perspective aristotélicienne, il est là justement pour permettre de viser à la justice et de viser au bonheur. Voilà, donc il n'y a pas de bien commun sans un recours ou un usage fécond du logos. Et donc cela a donné la définition aristotélicienne de l'homme, très connue en philosophie, de l'homme comme zoon politikon. Alors le zoon politikon, je suis en train d'y réfléchir, comment vous exposer cette idée? Alors oui, cette notion de zoon politikon, insiste sur la particularité et l'exclusivité de l'humain dans la sphère du vivant. Ça, c'est très important.
Oui, tout à fait.
Voilà. Parce qu'il est, alors pour deux raisons, au moins deux raisons, parce qu'il est d'une part ce zone qu'on doit traduire plutôt par animal vivant. Cet animal vivant, donc ce zone, doté du logos, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire du langage rationnel, il est exclusif et particulier en raison de ce pouvoir du logos, mais aussi parce qu'il est d'autre part ce zone qui s'intéresse au premier chef et quasi consubstantiellement à la vie politique. Voilà, il est ce seul vivant pour qui la vie politique a un intérêt. En tant que la politique désigne ici le domaine des affaires de la police. Alors, police, P-O-L-I-S.
De la ville.
Ouais. De la ville, exactement. Qu'on traduit par ville, par opposition à campagne, civilisation, ou cité, ou État. Donc, par vie politique, pour être plus complet, je dirais qu'il convient d'entendre non pas seulement une communauté qui cherche à favoriser sa survie collective, mais cette collectivité spécifiquement humaine qui vise également, je le disais tout à l'heure, mais j'y insiste, au bien-vivre, c'est-à-dire au bonheur, à la justice dans la cité.
On appellerait ça aussi le vivre ensemble.
Le vivre ensemble, exactement, tout à fait. Ce que les modernes appelleront le souverain bien d'une autre manière à l'époque moderne. Alors dans ce schéma-là, au plan de l'espèce humaine, je vais utiliser un terme aristotélicien, l'être illémorphique. Illémorphique,
c'est...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est en grec, c'est la matière. Hein. Morphé, c'est la forme. Donc, l'être illémorphique le mieux accompli, c'est-à-dire qui unit forme et matière. Chez Aristote, chaque substance est l'expression de l'unification d'une forme et d'une matière. L'être illémorphique le mieux accompli dans la substance individuelle, c'est donc cet animal rationnel ou raisonnable, qu'on a défini tout à l'heure, qui doit actualiser sa nature. C'est-à-dire donc ce vivant animal qui doit réaliser ce qu'il est en puissance, à savoir sa capacité langagière d'une part et sa destination politique d'autre part. Au plan individuel maintenant, je dirais que, pour essayer d'être un peu plus complet, c'est que quand même l'aristotélisme, et c'est là ma critique, invite à l'édification d'une forme aristocratique ou élitiste de la représentation des êtres vivants. Puisque chaque être est naturellement doté de capacités qu'il doit actualiser, il y a donc ceux qui ont des talents par nature et ceux qui n'en ont pas. Je dirais même que, ici, l'éducation et l'histoire n'exercent pas d'influence décisive sur l'avènement de la perfection ou de la vertu comme l'entendaient Aristote et les Grecs. Ou, pour être plus exact, je dirais que si elles influent sur le devenir des êtres, c'est plutôt au sens où elles permettent aux virtualités initiales des meilleurs de passer à l'acte.
Oui, parce qu'il y a toujours cette dichotomie entre la puissance, le fait d'être en puissance et en acte.
Exactement. Chez Aristote, ce sont deux concepts.
C'est le fondement.
Absolument, absolument. Ça, c'est aussi ce dualisme est très important chez Aristote, tout à fait, Thierry. Oui. Et donc, pour aller plus loin, je dirais que les meilleurs, ils n'ont pas besoin de faire des efforts, à la limite. Il suffit pour s'imposer qu'ils accomplissent leur talent propre dont ils sont doués initialement. Cela va même encore plus loin, si l'on y songe encore. Cela veut dire aussi que si l'on contrarie le développement des meilleurs, on risque de les rendre malheureux, pour le coup, à contrario. Car ils ne pourraient accomplir ce qui leur revient en propre, donc ils ne pourraient pas accomplir ce qui leur revient en propre naturellement, à savoir l'excellence. Bien sûr, il faudrait aller un petit peu plus en avant dans la doctrine aristotélicienne, notamment parler de l'idée de juste milieu. Mais je dirais que pour résumer ce tableau, en s'inspirant de son époque, Aristote définit la vertu ou l'excellence comme une forme de perfection, comme la réalisation aussi parfaite que possible, bien sûr, par chacun des êtres vivants, quel qu'il soit, de ce qui constitue sa nature. On est vraiment dans une pensée de la domination de nature. C'est la nature qui fixe les fins et la fonction des êtres vivants. Pour illustrer ce point, on peut reprendre l'expression de Hans Jonas en disant que finalement, dans le monde antique, les fins sont domiciliées dans la nature, inscrites en elle, au fond.
Oui, c'est très bien.
Voilà. Alors, pour conclure ce point, je dirais que la dimension aristocratique et élitiste de la nature ainsi définie a encore un bel avenir devant elle, et qu'elle a connu à l'époque contemporaine un franc succès à travers les théories raciales et racistes, à travers l'eugénisme, à travers le darwinisme et le néo-darwinisme encore plus appuyé, puisque le néo-darwinisme est un darwinisme radicalisé ou radical, à travers la théorie de la parentèle. Alors, tous ces concepts, toutes ces théories sont passées au peigne fin dans notre livre, hein, de la domination. Et on le voit aussi aujourd'hui dans le champ politique avec la réactivation de certains courants politiques qui ont malheureusement le vent en poupe et qui réactivent finalement des doctrines ancestrales comme ça.
Toujours en se réclamant d'une sorte de nature des plus forts contre les plus faibles. Et évidemment, ça nous oblige à penser maintenant la question de la ségrégation entre les êtres. On va essayer de revenir dessus dans une seconde partie.
In all the Kirchen, Brummen geht, hört man sauber Stoffes. Ginglach, Mädlach, Kind und Kate, Hosen, Pumpe, Bockes.
Ginglach, Mädlach, Kind und Kate, Hosen, Pumpe, Bockes. Genug schon wieder Horven, genug schon Borgenlein. Mach das sauber Stoffes, lohme Brüder sich verteilen.
Mach das sauber Stoffes, lohme Brüder sich verteilen. Brüder und Schwestern, lohme den Kirchen die Hände. Lohme Nikolai, Kalender, brechen die Rennen.
Hello, wir gehen zusammen. Lo mir Nikolai kennen, da grob mit der Mann.
Hey, hey, da neue Polizei, da neue Samen der Schamen. Brasse!
Nächsten hat er geführt, hat Wegele mischt. Meint ist er geboren, hat Kapital.
Hey, hey, da neue Polizei.
Nous sommes sur Radio Libertaire avec Tony Ferry, philosophe, pour continuer à parler de la domination. Alors nous avons abordé comment la notion a pu apparaître dès finalement la philosophie d'Aristote pour petit à petit se construire dans la séparation des thèmes du corps et d'esprit, hein, pour faire simple chez Descartes. Mais évidemment, on a fait l'impasse sur quelques petits problèmes, comme ceux notamment qui pouvaient construire la ségrégation entre les êtres vivants, et donc qui viennent plutôt du haut Moyen-Âge.
Oui, effectivement, entre Aristote et Descartes, on a fait un saut, mais ce sont deux grandes philosophies, hein, qui prêtent effectivement à une réflexion sur la hiérarchisation entre les êtres et donc à une forme de domination, puisque, rappelons-le, une domination suppose toujours une hiérarchisation entre les êtres. Il y a une classe supérieure, une classe soi-disant inférieure, qu'on essaie de légitimer à travers un certain nombre de notions.
Et on va même construire une échelle des êtres vivants, en plus, sans parler de... qui va coller avec l'échelle sociale, où les anges et dieux seront en haut, et le commun des mortels, voire l'animal le plus bas.
Effectivement. Et dans la société médiévale, on retrouve justement cette classification des êtres jusqu'aux anges, tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, ce thème de classification est important, puisque d'Aristote jusqu'à même Linné et Buffon, on va classer les êtres. Qui dit classer, là encore, on fait des différences. On opère des différences et on opère encore des hiérarchisations.
Mais ces différences ne peuvent devenir des inégalités que parce qu'on construit la hiérarchisation.
Exactement. Exactement. Ouais, absolument.
Et ça vient d'une idée un peu plus ancienne encore.
Oui. Alors justement, je voulais évoquer avec vous cette question de pneuma qu'on va trouver donc dans la pensée grecque et qui va traverser toute la période médiévale. Ça va le pneuma comme élément vital, comme élément propre à la vie, pour comprendre un petit peu la manière dont on se représentait le vivant à ces époques-là. Mais ça s'est prolongé sur plusieurs siècles. Hein. Ça a vraiment habité la représentation
du monde.
Le pneuma,
c'est un peu ce qu'on décrit comme étant le souffle vital, c'est ça?
Exactement. Exactement.
C'était pour faire simple.
Oui, oui, oui. Pneuma signifie effectivement, au plan étymologique, souffle. Le souffle. Le mot renvoie au souffle de la respiration, au souffle du vent, à l'exhalaison, à l'odeur, etc. Alors, on trouve, j'y insiste, cette thématique du pneuma dans toute la tradition ancienne, d'Hippocrate à Galienne, en passant par Aristote, et elle subsistera même au-delà, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, elle traverse l'époque médiévale et se retrouvera même, sous une certaine forme, dans la philosophie de Descartes, à travers sa notion d'esprit animaux.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, des esprits animaux chez des gardons. Alors bien sûr, il y a des différences, etc., mais c'est un petit peu, c'est l'héritier du pneuma. Hein, cette idée-là est l'héritière du pneuma. Et je dirais même que la traduction latine du pneuma est spiritus, qui vient du verbe spirare. C'est important aussi de faire un travail étymologique et conceptuel. Spirare, qui veut dire aussi respirer. Et spiritus donnera, comme on le sait en français, esprit. On retrouve l'idée d'âme aussi. Bon. On constate donc une association entre les termes souffle, esprit et vie dans toute l'époque antique et toute l'époque médiévale, avec aussi des subsistances à l'époque moderne. Et j'ajouterai, pour être plus complet encore sur cette notion étymologique, cette entreprise définitionnelle, qu'en grec ancien, le mot psyché, qui a donné psychique, signifie âme aussi. Et le verbe psycho, psycho, en grec, veut dire souffler. On retrouve là encore la même racine, la même idée. Et c'est à travers le langage qu'on se rend compte à quel point une notion peut habiter les représentations du monde que pouvaient avoir les hommes.
Comment est-ce qu'elle intervient après, en fait, dans cette problématique de la hiérarchisation?
Oui. Alors, je dirais, bon, effectivement, pour aller sur cette notion de la domination, je dirais que d'abord, je vais faire deux remarques quand même.
Allons-y.
Oui. Dans la perception ancienne, pour essayer d'être un peu plus précis sur la notion de pneuma, donc il y a au moins deux énergies vitales. Il y a le pneuma qui relève, on l'a vu, de la respiration et de la matière, et l'âme d'un autre côté qui caractérise plutôt un souffle, je dirais, davantage éthéré, pur. Pur en ce qu'il est moins matériel, justement. Donc la question complexe qui se posera aux naturalistes de l'époque et aux physiocrates est celle de savoir quel rapport entretiennent entre ces deux types de souffle. Sans compter qu'il y a un troisième pneuma, qu'il existe un troisième pneuma dit inné et qui procède du sperme.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ça, c'était la première remarque. La seconde remarque, c'est que le pneuma définit d'une manière générale, on l'a compris, l'air nécessaire à la vie. C'est cette air nécessaire à la vie. C'est très mystérieux et pourtant ça a vraiment été une question cruciale à l'époque ancienne. Il est perçu, je dirais, comme possédant des qualités vitales, car il y a quelque chose dans le pneuma qui est efficace du point de vue biologique. L'une des propriétés du pneuma réside donc, notamment, on le retrouve même chez Descartes, dans sa capacité à refroidir la chaleur du corps produit par le cœur. C'est en quelque manière un climatiseur, le pneuma, un régulateur de température et une force d'équilibre de l'être. Et n'oublions pas que la parenté étroite entre vie et chaleur existe, puisqu'un cadavre est dit froid, et on dit de lui qu'il serait dit par la froidure. Donc il y a quelque chose à voir entre la vie et la chaleur, et le pneuma est là pour réguler tout ça. Alors à partir de ces définitions préliminaires et de ces quelques remarques, je dirais qu'il est essentiel de se souvenir que la vie est portée par l'animal, que l'animal possède ce principe de vie qu'on appelle l'âme, on l'a vu tout à l'heure, et c'est ce qui permet son animation. Donc il y a une connexion entre ces termes d'âme, d'animal et d'animation. Ce sont des termes connexes. Et que, donc, selon ce schéma, nous trouvons d'Aristote d'un côté, Aline et Buffon de l'autre, non seulement l'idée qu'il est nécessaire de classer des animaux, mais qu'il est nécessaire de les classer selon des propriétés intrinsèques, des qualités innées, qu'on dirait innées aujourd'hui. Et donc, ce qui est important de noter dans le pneuma, ce que je veux souligner, c'est qu'il y aurait donc des animaux qui seraient supérieurs à d'autres en fonction justement de leur degré de pneuma qu'il y a en eux et en fonction aussi de son degré d'accomplissement.
C'est ce qui fait qu'ils s'ordonnent dans une hiérarchie naturelle.
Exactement. Il y aurait des animaux qui accompliraient mieux que d'autres la vie parce qu'ils seraient mieux dotés de pneuma. Par exemple, les insectes qui n'ont pas de poumons, à ma connaissance, et donc de chaleur à refroidir, appartiendront à la classe des invertébrés et à ce titre, ils seront perçus comme possédant un pneuma moindre.
Ouais, inférieur, tout à fait.
Et voilà. Donc, cette pensée du pneuma a permis, effectivement, donc, à traverser le cours des âges, moins connue aujourd'hui parce qu'on considère que c'est un peu occulte, etc. Pourtant, ça a effectivement habillé la pensée antico-médiévale. Et il y a eu un retentissement, effectivement, de ce pneuma dans l'époque moderne, sous différentes manières. Et on pourrait même aussi interroger la génétique, parce que dans la génétique, certes, on ne parle plus de pneuma, mais le gène aurait un pouvoir, un quasi-mystérieux aussi, de créer des comportements, de créer même des personnalités, alors qu'on n'arrive pas, en décortiquant un gène, on n'arrive pas à voir le miroir du comportement. Voilà. Donc comment une psychologie pourrait-elle naître de la génétique? Donc là encore, on est dans du mystérieux, sous d'autres formes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Toi, c'est bien à travers ces critères génétiques, malgré tout, qu'on établit effectivement un ensemble de hiérarchies, en présupposant dans la biologie naturaliste, surtout au XIXe siècle, que certains êtres vont être supérieurs à d'autres, ce qui va permettre d'ouvrir les portes à un darwinisme acharné. Mais à la différence tout de même du pneuma, c'est que dans la génétique, on part sur des bases qui sont équivalentes. C'est-à-dire qu'un gène vaut un autre gène chez une autre espèce. C'est le rassemblage qui va générer cette variation et cette différence-là. En revanche, oui, on est bien sur l'hypothèse finalement extraordinairement ancienne, hein, et qu'on nous répète sous des couleurs plus modernisées d'une société à l'autre, d'une antériorité de la qualité à son expression, et donc les individus auraient une vertu, une qualité, ou au contraire une très mauvaise qualité entre eux, qui serait intrinsèque et donc qui permettrait d'établir des hiérarchies sociales.
Et d'ailleurs, il me semble que c'est très dangereux de vouloir miser sur le tout génétique, de vouloir réduire l'être à la seule perspective génétique, puisque, on l'a vu aussi à travers l'histoire, l'eugénisme est une variante, on va dire, idéologique, à tout le moins idéologique, de la génétique, ou un présupposé de la génétique, puisque effectivement, on présuppose que des êtres sont différents, radicalement différents, en fonction de la qualité des gènes dont ils sont porteurs. Et on va là encore faire des classifications, des hiérarchisations, et donc des exclusions. On va exclure des pans entiers de l'humain, voire on va éliminer des pans entiers de l'humain au nom de l'eugénisme, et donc au nom d'un glissement de la génétique vers cette perspective eugénique. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la génétique, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de naturel en l'homme, de profondément naturel, qui va effectivement former son culturel, sa façon de se représenter, le monde, la façon d'entretenir des relations avec les autres, ses comportements. On va parler d'un gène, pour les plus extrémistes, d'un gène de l'homosexualité, d'un gène de la criminalité. On va enfermer des gens dans des gènes. Les gènes vont être, voilà, un petit peu, ça va être la panacée. On va tout expliquer.
Oui, dès qu'on aura le gène, on aura presque l'explication, qui n'est pas une explication en elle-même, évidemment, mais qui donne l'impression de l'être, puisque le gène aurait sa qualité propre de fabriquer du criminel ou de fabriquer du génie.
Ah. Donc c'est la génétique, c'est effectivement un naturalisme. Ça peut favoriser un inégalitarisme social, ça peut être naturaliste, un inégalitarisme naturaliste, dont l'eugénisme, j'y insiste, ou le racisme sont des variantes. Et donc, il faut être très, très prudent lorsqu'on parle de génétique et lorsque, effectivement, les scientifiques abordent cette question-là. Je crois que beaucoup sont prudents quand même, parce que lorsqu'on décortique un gène ou lorsqu'on essaie de le lire, eh bien, on ne voit pas, Thierry, on ne voit pas l'être. Qu'est-ce qu'on voit dans un gène, justement? Entre ce qu'on perçoit du gène et ce qu'il va exprimer au final dans la société, à travers finalement le déploiement de l'être, il y a un saut.
Un saut énorme,
qualitatif. Pas seulement quantitatif, même qualitatif.
Et c'est sûrement pour ça que d'ailleurs les généticiens s'empressent tout le temps de préciser qu'un gène serait une chose matérielle, une véritable, un petit morceau d'ADN, parce qu'effectivement on attribue à ce petit morceau d'ADN quelque chose de bien supérieur à ce que le petit morceau d'ADN en question est capable de supporter.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Vous avez reconnu Jean Ferrat, qui interprétait Nuit et brouillard.
Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous sommes en train de parler avec le philosophe Tony Ferry d'une question essentielle, la nature de la domination. Alors on a un petit peu fait le tour, Tony, de ce qu'étaient les idées aristotéliciennes sur la relation de pouvoir. Reste maintenant à se poser la question, un peu plus loin dans l'histoire de la philosophie, comment d'autres notions peuvent apparaître et comment cette nature de la domination s'est expliquée.
Oui, effectivement. Après avoir donc rappelé quelques fondamentaux de la philosophie aristotélicienne par rapport à la question de la domination, du moins ce qu'on pouvait en extraire par rapport à cette question de la domination, on peut faire un saut dans l'histoire et aller vers une autre philosophie révolutionnaire pour l'époque et qui a marqué son temps et dont nos institutions, dont notre institution universitaire française est très
friande.
Très friande et fière. Il s'agit de Descartes. Alors bien sûr, il n'y a pas non plus une théorie de la domination chez Descartes, il n'y a pas d'ouvrage très explicite sur le sujet, et pourtant je crois que dans sa philosophie, il y a des éléments qui invitent à la pensée d'une domination. Alors, je vais essayer de dégager un petit peu ces grands axes maintenant. Alors je rappelle qu'avec l'avènement de la philosophie de Descartes, effectivement, donc, on assiste notamment dans le champ physique et naturel, on dirait aujourd'hui scientifique et technologique, on assiste à un tournant décisif, puisque Descartes va radicaliser, donc sur la question de la domination, il va radicaliser cette hiérarchisation du vivant. Non seulement en poussant loin la différenciation entre les êtres vivants, eux-mêmes, mais en supprimant l'âme des animaux. En supprimant l'âme des animaux. Descartes, c'est vraiment le penseur du retranchement de l'âme des animaux. Alors, c'est problématique parce que comment penser l'animal en dehors d'une âme? Rappelons quand même que l'étymologie du mot animal, eh bien, c'est cet être porteur d'une âme. Alors, il ne faut pas l'entendre au sens religieux du terme, forcément, hein, mais au sens d'un principe de vie. Voilà. Donc, comment penser l'animal en ayant extrait ce qui est sa sève? Et Descartes va essayer de le penser. Donc c'est très révolutionnaire pour l'époque, puisque chez Aristote, non, il y a effectivement cette tripartition de l'âme. Il y a l'âme végétative, l'âme sensitive et l'âme rationnelle. Chez Descartes, il n'y a plus d'âme pour les animaux. Alors, pour aller un petit peu plus en profondeur, Par rapport à cette question de la désanimisation, excusez-moi pour ce terme, mais c'est bien comme ça qu'il faut nommer les choses, par rapport à cette désanimisation de la vie, Descartes va quand même faire subsister l'idée d'âme dans un seul domaine, dans le domaine de la vie psychologique. Alors, ceci s'insère dans sa métaphysique, bien sûr, puisque sur un plan métaphysique ou ontologique, je rappelle, je ne veux pas être trop technique, mais je rappelle que Descartes est le philosophe de la distinction entre la res cogitans, c'est-à-dire la substance pensante ou la pensée, et la res extensa, c'est-à-dire la substance corporelle ou le corps. Cela signifie plusieurs choses. Cela signifie d'abord que la matière est dépourvue de toute activité. Cette séparation entraîne, illico presto, le fait que la matière est dépourvue de toute activité, qu'elle est réduite par lui donc à l'étendue, ce qu'il appelle l'étendue, c'est-à-dire des formes géométriques, notamment des formes géométriques. Elle est purement passive et inerte. Et d'ailleurs, Descartes ne fait d'une certaine manière que reprendre ce qui est un petit peu en vogue à l'époque, c'est-à-dire le principe d'inertie qui se déploie dans la mécanique galiléo-newtonienne de l'époque. Descartes en est un des grands représentants. Cela signifie ensuite que la matière corporelle est soumise donc aux seules lois de la mécanique, c'est-à-dire aux seules lois du mouvement. J'insiste pour dire que l'origine du mouvement est pour Descartes, ça c'est important aussi dans sa philosophie, que l'origine du mouvement est hétérogène, est extérieure à la matière. D'où là encore l'application du principe d'inertie. Pour le dire autrement, je dirais que la vie animale, l'animation de la vie, doit s'entendre non pas comme l'expression de la puissance ou de la force de l'âme, mais comme le résultat des lois du mouvement. Voilà. On ne se réfère plus ici à l'âme, mais au mouvement. Comme d'ailleurs dans l'expression, par exemple, dessin animé. Dessin animé, c'est on met en mouvement un certain nombre d'images fixes, figées. Ça, je pense que ça permet de comprendre un petit peu le renversement qui est opéré. C'est-à-dire que finalement, la vie vient du dehors.
Il n'y a plus de principe. Extérieur
ou... Voilà, absolument. Cela signifie encore que les causes dites finales d'Aristote, on aurait pu aussi parler des causes finales chez Aristote, c'est très important parce qu'il y a eu toute une postérité autour de cela. Les causes finales d'Aristote.
Causes finales de cette postérité, on va la retrouver dans le darwinisme dont on parlera tout à l'heure, mais bon.
Exactement.
Continue, excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, au contraire. Ou les facultés dites naturelles chez Galienne, qui est aussi un grand héritier d'Aristote, mais via la civilisation arabe aussi.
Et mieux connu par la médecine aussi.
Mais... Oui, absolument. C'était un médecin d'ailleurs, Galienne. Effectivement, donc les facultés dites naturelles ou les ferments de Van Helmont. Et puis tous les différents pneumas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les différents pneumas qui ont eu cours à l'époque médiévale, tout ceci est considéré par Descartes comme des dispositions finalement occultes, et on dirait aujourd'hui non scientifiques de la matière. C'est en cela qu'il y a une grande révolution qui s'opère avec Descartes. Ce que nous percevons de la matière comme quelque chose qui ferait signe vers une forme d'activité, comme dans le cas de la fermentation, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la fermentation? Il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de la matière. Eh bien, là encore, ce n'est que l'expression d'un mouvement mécanique, je dirais des particules matérielles. Il y a un atomisme chez Descartes. Il va reprendre toute la philosophie atomistique et héritée de Démocrite, pour ce qui concerne la partie physico, on dirait physico-chimique aujourd'hui, chez Descartes. Et je dirais que ça signifie enfin que Descartes est le grand représentant donc, de la révolution scientifique de l'âge classique et de l'avènement de la physique mathématique.
Par un réductionnisme constant, au demeurant.
Oui, absolument. Ne serait-ce que pour cette raison-là, mais aussi parce qu'il réduit le corps au domaine des objets connaissables de la physique, et qui lui fait perdre, au fond, toute dimension de spiritualité, toute trace de spiritualité ou de sacralité. Voilà. En résumé, avec le cartésianisme, le corps perd toute trace des causes finales, mais ces causes finales vont revenir au XIXe siècle, notamment à travers le darwinisme et ses avatars. L'idée aristotélicienne et galénique aussi, d'ailleurs, selon laquelle la fonction fait l'organe, vole en éclats chez Descartes. Donc le corps perd tout résidu de spiritualité médiévale, et qu'il est dépossédé de toute intériorité. Il n'y a plus d'intériorité, tout se passe à l'extérieur. Et ces mouvements procèdent de lois purement externes, relatives à la géométrie, à la mécanique, donc aux lois de la mesure. Alors, de là vient que ce qui est important de noter maintenant, pour aller droit à l'essentiel, c'est que cette distinction cartésienne, et j'en viens à l'idée de domination, c'est que cette distinction cartésienne, au plan ontologique, comme on l'a dit tout à l'heure, entre esprit et corps pourtant étroitement unis dans l'expérience, Descartes dit dans la sixième méditation que même s'il y a une différence radicale, ontologique, entre ces deux substances, pourtant, chaque jour, on fait l'expérience de cette union, mais on ne sait pas l'expliquer, mais on l'éprouve bien. Eh bien, cette distinction permet de fonder et même de rendre possible, en retour, différentes formes de l'exploitation et de la domination, à commencer par celle de la nature, vis-à-vis de laquelle l'humain peut se rendre comme maître et possesseur
de la nature.
C'est une grande thématique du cartésianisme. Et Descartes le dit lui-même, effectivement. Où l'on voit que la domination s'inscrit ici dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'émergence au cœur de notre modernité, de cette révolution scientifique portée par Descartes lui-même, et que cette domination autorise l'exercice d'une souveraineté humaine sur la nature et les autres animaux.
Et donc c'est en tant que certains humains vont posséder une nature propre à se faire dominer qu'on va pouvoir retrouver un exercice de la domination qui sera en quelque sorte justifié.
Absolument.
C'est à peu près ça, j'ai bien compris.
Oui, tout à fait, absolument. Parce qu'il y a lieu de voir, effectivement, que le droit à l'exercice de cette souveraineté est l'émanation d'une exception humaine, puisque seul l'homme est possesseur de cette substance dite res cogitans. Et donc il est le seul pourvu d'une vie intérieure, et que cette vie intérieure est ce qui fait sa dignité, ou son caractère sacré. Et c'est ce qui force, ce que dirait par exemple Kant, c'est ce qui force son respect. La notion de respect est très très importante aussi dans la philosophie de Kant. Voilà. Seul, finalement, l'humain est un être de respect et un être de dignité. Il en résulte, pour finir, qu'à partir de ce modèle-là, qui aboutit à postuler, on l'a bien compris, une différence non plus de degré, comme chez Aristote, mais de nature entre le spirituel et le corporel, eh bien, il en résulte que le naturellement différent est ce qui peut être à la merci des êtres supérieurs, justement. C'est l'enjeu. Il devient, de fait comme de droit, un instrument de la domination. Il suffira de dire, oui, pour aller plus loin, que l'autre, c'est-à-dire le juif jadis, le musulman aujourd'hui peut-être, l'étranger de manière globale, le criminel, etc., que sais-je encore, il suffira de dire que l'autre est naturellement différent pour le montrer du doigt et le caractériser sans autre forme de procès, comme un individu laid et dangereux, indigne. À travers la notion de la théorie de l'animal-machine chez Descartes, mais je crois aussi, qu'on a déjà quelques idées, quelques grands axes.
Chez Malebranche aussi, qu'on retrouve après. Oui, le principe général, en fait, qu'on peut bien concevoir, c'est qu'avec cette dichotomie qui a été faite d'entrée de jeu entre l'acte et la puissance au départ, puis qui est maintenant transformée entre une dichotomie entre la pensée et le corps, en quelque sorte, ça va faire ouvrir des portes à tout ce qui va être par la suite la réalité génétique des gens. Hein. Maintenant, on dit la même chose, mais en disant, oui, c'est dans ces gènes qu'il est comme ça et qu'il est comme ça. Et donc, on a effectivement le droit, puisque cette nature va nous ouvrir la porte de la domination. Nous revoilà donc sur Radio Libertaire, toujours dans Science en Liberté. Et avec Tony Ferry, nous continuons à explorer cette question de la domination. Après avoir fait le tour maintenant de plein de choses, nous sommes directement arrivés sur les gènes.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre dans notre livre de la domination, hein, « Essai sur les falsifications du pouvoir », paru donc tout récemment ce mois-ci, en février 2017, chez Libre et Solidaire. Nous évoquons beaucoup la question de la domination à la lumière de la génétique, mais aussi à la lumière, alors là c'est très important, à la lumière du darwinisme et du néo-darwinisme et de tous ces corollaires liés notamment à la théorie de la parentèle. Donc ça c'est très très important, puisque effectivement le darwinisme c'est quand même une pensée qui va inscrire donc l'évolution des êtres, on va dire voilà, les êtres ont une histoire, elles n'ont pas été créées de Les bêtes, les êtres n'ont pas été créés de toute éternité par une instance divine ou archétypale. Il n'y a pas un grand architecte. Les êtres donc ont une histoire, ce qu'on appelle plutôt une évolution. Le terme histoire, on va le conserver à l'homme. Là encore, on fait même dans notre langage des différenciations comme cela. Et le terme évolution, donc ça va concerner le monde naturel, mais chez Darwin, donc, il y a vraiment l'idée d'une domination, du moins sous-jacente, puisqu'il dit clairement que cette évolution s'indexe sur la question de la survie du plus apte.
Et du plus apte et du plus fort. Il y a à la fois cette notion de progrès, finalement, d'amélioration au fur et à mesure des conditions de vie, mais à travers l'hypothèse que certains individus disposent d'une nature, puisque c'est toujours fondé sur cet aspect naturel, d'une nature qui le rendrait plus apte, plus fort. Alors, chez Darwin, c'est carrément flagrant, hein, on a une domination des uns sur les autres, qui est encore plus forte au sein de l'espèce, au sein des individus, dans le même groupe, hein, que par rapport à d'autres, puisque les autres sont finalement considérés comme une sorte de filtre passif. Hein, quand un chat tue un oiseau, le chat n'est que l'environnement de l'oiseau, et si cet oiseau-là est mort et pas un autre, c'est parce que celui-là disposait de qualités qui étaient moindres que l'autre oiseau. Donc cette hiérarchie s'est complètement inscrite. Et c'est sa nature qui explique ça.
Effectivement, c'est sa nature. Et donc là, il y a un regard sur le règne animal, sur le règne du vivant en général, un regard très particulier, puisque au final, cela veut dire que ce qui va caractériser le propre du vivant, c'est la lutte, finalement. C'est la lutte, c'est l'idée de lutte. Alors c'est très contestable parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de comportements animaux qui, finalement, ne peuvent pas recevoir, pour être bien comprise, cette grille de lecture darwinienne, puisque tous les comportements des êtres vivants ne sont pas indexés sur la lutte, la guerre, et le fait de prendre le dessus sur un soi-disant plus faible, au profit d'un soi-disant plus fort. Donc cette question de la survie, de la lutte pour la survie, d'ailleurs, j'ajoute pour dire d'un point de vue philosophique que cette question de la survie est très propre au XIXe siècle. On va retrouver cette idée-là même chez les philosophes, chez les métaphysiciens comme chez Hegel.
Que chez les survivalistes américains et quelques sectes fascistes en fait en Amérique. Mais autrement, effectivement, on la retrouve plus chez Hegel que chez...
Effectivement. Chez Hegel, même chez Marx. C'est-à-dire qu'en gros, même les sociétés humaines, finalement, passent d'une époque à une autre, progresse ou régresse, progresse plutôt, hein, en réalité, dans les schémas hegeliano-marxistes, vers effectivement une amélioration de la société, au tel point qu'après il y a la dilution dans la pensée de Marx. On sait très bien que l'État devient inutile et même encombrant, et doit disparaître naturellement.
C'est aussi ça qui est nouveau chez Marx, c'est qu'auparavant, dans Darwin, la lutte est l'élément principal de la dynamique. Chez Marx, ce n'est qu'un moment de cette dynamique qui va se résoudre, je ne sais pas par quel esprit de hasard, mais chez lui ça va se résoudre dans le communisme, donc dans l'absence de l'État et dans avec le passage de période particulière, mais où quand même la lutte est intrinsèque parce que socialement des individus sont des dominants par rapport à d'autres, mais c'est pas intrinsèquement qu'ils sont dominants, c'est historiquement. Et là intervient quelque chose de totalement différent. Chez Darwin, c'était la naturalité avec deux notions dans cette dominance. D'abord, une notion de qualité individuelle qui faisait que certains étaient meilleurs que d'autres, et d'autre part, une autre notion qui est celle que de toute façon on est dans une lutte permanente et que celui qui ne prend pas le pas ne survit pas.
Absolument. Donc effectivement, chez Marx, c'est l'idée qu'il y a quand même une réconciliation finalement à la fin, une paix, il y a une perspective. Voilà. Tandis que dans le darwinisme, effectivement, ça va plus loin, puisque au cœur de l'être, au cœur des êtres vivants, je dirais même ontologiquement, d'un point de vue philosophique, les structures des sociétés animales évoluent en fonction donc, de cette lutte. C'est irréconciliable. Et cette lutte... dont le gain est promis pour les meilleurs, est promis aux meilleurs, eh bien cette lutte-là, elle est fonction des qualités de ce qu'on dirait les gènes aujourd'hui.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est ça qui est problématique et qu'on a voulu interroger sérieusement dans ce livre. Tous les comportements des êtres vivants ne sont pas indexés sur cette idée de lutte. Ce n'est pas parce qu'on a soi-disant d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire avoir un gène, un bon gène ou un mauvais gène, ça on l'interroge, là c'est prescriptif, normatif mais pas descriptif, un gène n'a aucun sens de dire qu'un gène est bon ou mauvais, il fonctionne bien ou mal, mais il est bon ou mauvais, non, là-dessus il y a un saut qui est fait vers des questions d'ordre, on dirait, prescriptive ou transcendantale.
Parce que cette domination a besoin en quelque sorte d'une explication, d'une justification pour imposer son ordre social, et donc c'est pour ça qu'il va chercher à nouveau la nature des personnes, alors que l'avantage c'est qu'on avait quand même au 19e siècle quelques penseurs qui comprenaient que ces questions hiérarchiques étaient faussées, on peut penser à Fourier par exemple, dont évidemment qui réinvente un ordre quasi écologique hein, à son époque en tout cas, pour supprimer aussi cette hypothèse qu'il faille chercher dans la nature des individus des variations qui expliqueraient à ce point les questions de domination. Elles ne viennent évidemment pas de la nature, mais elles viennent bien de véritables raisons ou de questions sociales. Alors, peut-être sur Fourier, je vais un peu loin, mais qu'est-ce que t'en penses ?
Oui. En ce qui concerne la pensée fourieriste, c'est vrai qu'on pourrait peut-être, si tu en es d'accord, interroger René Scherrer, qui est un des grands spécialistes aujourd'hui de la pensée fourieriste. Et d'ailleurs, il lui-même se qualifie comme étant un philosophe fourieriste. Il a beaucoup écrit, je revois les auditeurs d'ailleurs, à la pensée de René Scherrer sur le fourierisme. Si tu en es d'accord, Thierry, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la question du darwinisme, parce qu'il y a aussi une contradiction quand même dans le darwinisme, une contradiction importante, c'est que cette idée de lutte qui structurerait finalement l'évolution du vivant, cette idée de lutte intrinsèque avec la promesse que les meilleurs finalement l'emporteront toujours et élimineront les plus faibles, comme si les meilleurs avaient vocation à éliminer les plus faibles, comme s'il y avait forcément des meilleurs et des plus faibles. Là, on retrouve cette résurgence des formes anciennes d'un inéisme de force ou de faiblesse.
Oui, même un petit peu coloré de judéo-christianisme, parce que ces meilleurs, c'est quasiment leur paradis qu'ils obtiennent à force de lutter contre ceux qui disposent des moins bonnes qualités, mais je t'ai coupé.
Oui, non, je t'en prie. Mais justement, cette contradiction, enfin l'une d'entre elles, c'est à force de vouloir, de se représenter l'évolution du vivant selon cette structure de lutte, eh bien, à un moment donné, donc, à force de progrès, il devrait y avoir une fin. Parce que le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur, à un moment donné, on arrive au parfait. Or, le parfait n'existe pas, enfin, du moins dans la nature. Et donc, à un moment donné, le darwinisme est confronté à la question d'un arrêt de cette lutte.
De cette histoire.
De cette histoire, de cette évolution indexée sur la lutte. Bien sûr, Darwin, à ma connaissance, ne soulève pas ce problème-là. Il ne répond pas à cette question-là. Il ne la pose pas, d'ailleurs, clairement. Mais effectivement, de même que dans le marxisme, à un moment donné, il y a une fin, parce que effectivement, à force d'essayer de par la lutte de trouver le meilleur régime qui pourrait convenir au plus grand nombre, eh bien, dans le darwinisme, à un moment donné, il devrait y avoir une réconciliation. Ça devrait aboutir par la force des choses. Le négatif associé au négatif devrait à un moment donné du positif. Or, ça paraît être infini et donc complètement contradictoire avec l'idée de meilleur.
Oui, parce qu'il n'y a pas, inatteignable. Voilà, il n'y a pas d'intégration d'une dialectique comme on peut la trouver chez Marx, qui peut enfin finir son histoire, ou comme on peut la trouver chez Hegel, même si c'est pas tout à fait de la même manière. Là, avec avec Darwin, on a une explication qui se veut scientifique, c'est-à-dire effectivement infinie, universelle, qui va vers du grand vide, sans... d'autant que de toute façon, il a déjà devant lui l'explication, puisque l'humain étant là, il est quand même au-dessus du reste des espèces. Alors, on prétend souvent que Darwin a rompu avec l'échelle des êtres, mais ce n'est pas tellement flagrant quand on regarde sa manière de présenter la phylogénie évolutive. Mmh. Et puis évidemment, tout ça, ça nous renvoie toujours à cette hypothèse que de toute façon, il y aura des gagnants et des perdants. Là, actuellement, dans le néo-darwinisme, c'est fondé sur les gènes, mais ça reste toujours fondé sur cette hypothèse centrale que les dominants seraient dominants parce que leur qualité serait en quelque sorte privilégiée. On va retrouver Aristote, hein, on aurait quasiment besoin des dominants, et si on les empêchait de s'exprimer, ces pauvres dominants, de toute façon, ils seraient quasiment perturbés. Mmh. Ça fait partie de leur propre modalité vitale que de s'avérer être les dominants des autres, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est inscrit dans des éléments intrinsèques, alors que ce soit les gènes, que ce soit leur nature, ou tout ce qu'on veut. Ces pauvres dominants qui nous cassent sans arrêt du sucre sur le dos sont ceux-là qu'il faudrait presque que défendre. On va retrouver presque des exemples courants là actuellement avec des gens qui se trouvent victimes des institutions judiciaires ou d'autres qui vont nous faire l'histoire à l'envers. On peut penser comme ça à quelques politiques contemporains dont la couleur est bien connue. Alors évidemment, s'il y a une nature intrinsèque à être dominé ou à être dominant, on peut évidemment envisager que ses propres frangins, ses propres apparentés pourraient participer de ce genre de choses. Et on retrouve dans une théorie qui a eu beaucoup, beaucoup de succès à la suite du darwinisme, c'est la théorie d'Hamilton sur la parentèle, par exemple.
Oui. Est-ce que tu peux rappeler, Thierry, ce que c'est que la théorie de la parentèle ? Qu'en penses-tu d'Hamilton ? Oui.
Oui, c'est assez compliqué d'un point de vue génétique, parce que c'est un simple modèle mathématique. Mais grosso modo, il dit qu'il vaut mieux qu'on va plutôt se défendre entre parents, apparentés, parce que comme on partage des gènes en commun, si l'un de nous deux était dépassé par les événements, de toute façon, l'autre porte les mêmes gènes et donc pourra de toute façon les transmettre. Et au pire, on pourra doubler la transmission de nos gènes. Au minimum, on aura au moins un gène. Alors, ça explique même la mort des abeilles, le fait de se suicider soi-même, puisque de toute façon, les autres portent les gènes.
Mmh. Oui. Donc, il y a vraiment cette idée qu'au final, dans la théorie de la parentèle, cette idée que je vais miser sur l'être qui m'est le plus proche génétiquement. Je vais le faire spontanément. Il y a comme quelque chose qui me pousse naturellement à vouloir le protéger ou à vouloir assurer ma descendance à travers lui. Et donc, mon descendant m'est privilégié parce qu'il est porteur d'une partie de mes gènes. C'est l'idée de la théorie de la parentèle. Et donc, finalement, ça expliquerait pourquoi, dans ce schéma-là, pourquoi, finalement, l'étranger ferait peur, pourquoi est-ce qu'on l'exclurait, et au final, pourquoi on préférerait, finalement, son voisin ou ses propres enfants. Et pourquoi on serait prêt à se sacrifier pour ses propres enfants. Au contraire, on serait... plutôt prêt à s'engager dans une dynamique de l'exclusion de l'étranger. On le voit aujourd'hui avec le Front National qui a le vent en poupe, malheureusement. Et ça serait une des applications politiques de la théorie de la parentèle. Mais c'est tout à fait discutable. On le sait à travers des schémas naturels et naturalistes. Et même sur le plan politique, là, il y a de quoi... Il y a du grain à moudre.
Oui, parce qu'en fait, si on se défie de l'étranger, c'est aussi parce que ça repose sur un préjugé fondamental, cette hypothèse de la parentèle, c'est qu'il y existe une nature humaine, c'est que les gènes, puisqu'ils sont, exemple, ils sont ensemble, ils sont les mêmes, ils sont identiques, ils ont forcément la même expression, la même manière d'être. Alors évidemment, on prend toujours le cas des jumeaux ou d'éléments génétiques qui sont faciles, comme cela à montrer. Dans le cadre de la parentèle, on dispose en effet de gènes en commun, mais de là à ce qu'ils s'expriment, il y a déjà beaucoup de distance. De là à ce que des gènes soient capables d'apporter des comportements, il y a encore beaucoup de distance et toutes ces manœuvres-là permettent à ce préjugé de s'inscrire dans une sorte de totalitarisme. Nous sommes notre propre nature. Comme nous sommes notre propre nature, il vaut mieux qu'on soit entre amis ou entre parents. Et en étant entre parents, on va évidemment se privilégier nous-mêmes avec un autre préjugé qui est celui de l'égoïsme derrière, ce qui permettra du coup d'être les meilleurs, d'être les plus forts. Et évidemment, ceux qui n'ont pas les mêmes gènes que nous sont par définition des individus plus dangereux, qui peuvent faire la même chose, puisqu'ils seraient eux aussi égoïstes, eux aussi ils auraient une nature à exprimer contre nous. On s'en sort pas, on tourne en rond.
Exactement. Et d'ailleurs, la théorie de la parentèle n'explique pas un certain nombre de phénomènes sociaux, comme par exemple, déjà, les phénomènes biologiques. Par exemple, la question de la consanguinité.
Oui, bien au contraire, puisque la consanguinité, justement, est une dépression qui empêche la biologie de bien se porter. En revanche, elle retrouve comme par hasard des notions très proches de ce que les identitaires essaient de développer, c'est-à-dire la relation à un patriotisme exacerbé, à une identité nationaliste. Et ce n'est pas tout à fait, à mon sens, un hasard si on retrouve dans les sciences des idées qui apparaissent scientifiques et parce qu'elles sont finalement et qu'elles collent très bien avec le terrain ou avec les hypothèses de la hiérarchie ou de la domination. Elles ne sont probablement pas aussi neutres et en tout cas pas aussi discrètes qu'on peut le penser. Alors après, sont-elles vraies? C'est ça la vraie question. Et là, quand on regarde la faune sauvage, quand on regarde la réalité, on s'aperçoit évidemment qu'on est dans le plus grand délire. Les hypothèses étaient fondées sur des hyménoptères sociaux, des abeilles, des fourmis. Et ça ne marche même pas, puisque chez les fourmis, le taux de parenté atteint à peine 27%, ce qui est finalement le taux d'un cousin par rapport à un autre cousin. Et ensuite, on sait très bien qu'il y a au moins une anomalie grandiose qui met en l'air la théorie de la parentèle. C'est le fait que les pères génétiques reconnaissent très difficilement leurs enfants. Vous imaginez, la théorie de la parentèle supposerait que si vous êtes le père d'un enfant que vous n'avez jamais vu depuis sa naissance parce que la femme ne vous a pas dit que vous aviez un enfant, vous le croisez dans la rue et normalement tout de suite vous vous dites « Ah mais il faut que je défende cette personne-là enfin, ». C'est caricatural bien entendu.
Oui. Donc non seulement ça ne rend pas compte du rejet naturel, quasi naturel, ou du moins tel qu'on peut l'observer dans la nature, du rejet de la consanguinité, puisque effectivement il y a quand même une recherche des êtres, une recherche de la différence, et ça c'est très important dans la richesse finalement biologique qui s'opère à travers la recherche de l'autre, de l'hétérogène, de l'élément hétérogène. Donc non à la consanguinité et oui aux éléments hétérogènes, mais la théorie de la parentèle fait complètement l'impasse par rapport à cette question-là. Ça c'est sur le plan biologique, mais sur le plan, je dirais, politico-social, la question de l'exogamie.
Tout à fait.
Voilà. Comment se fait-il que finalement les sociétés quand même s'organisent pour aller vers d'autres sociétés comme si elles y étaient poussées. Voilà.
Sans compter qu'évidemment, avec la question de la parentèle, on fait largement écho à la problématique de la migration en pensant qu'il existe des êtres qui seraient mieux chez eux. Après tout, pourquoi pas, hein, on serait adapté à notre monde tant qu'on y est, si on veut faire en plus un petit darwinisme de façade. Et donc expliquer qu'entre apparentés, on est vraiment très très bien chez soi et point final. Toute l'évolution biologique nous dit le contraire, toute la faune sauvage, la flore sauvage nous dit le contraire, le monde est au contraire et l'évolution est au contraire basée sur la différence, sur la capacité à se concevoir comme être différent, et il n'y aurait pas d'écologie sans toutes ces différences, sans la différence de toutes les parties que nous connaissons dans le monde vivant.
Allez, levez les doigts, tous les doigts. Alors, on vous fait confiance, plus jamais. Plus jamais, nous serons toujours contre. C'est ça, le mouvement de la jeunesse. Le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes. Et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le monde. Jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. La jeunesse en mer. Merci. Merci ce soir vous êtes super. Alors la prochaine fois que le gros Le Pen là, il se baladera dans la France, je vais vous voir gueuler comme ce soir, ok ? La jeunesse du monde emmerde le Front National ! 1, 2, 1, 2, 3, 4, la jeunesse emmerde le Front National.
La jeunesse emmerde le Front National.
Pour la
et pour la justice. La jeunesse emmerde le Front National.
La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National.
Vous écoutiez les Berruriers Noirs.
Alors, à l'issue de cette émission qui basculait entre philosophie et biologie, la nature de la domination révèle bien qu'elle ne possède rien de naturel. Entre Aristote, dont il fut question, et Darwin, qui arriva plus tard, les dominants installent juste un rapport de force qu'ils réussissent à institutionnaliser par leurs mensonges. Et rien ne vient jamais étayer l'hypothèse que la domination serait un talent caché qui nous protégerait pour vivre ensemble. Dans le livre de la domination, Essai sur les falsifications du pouvoir, publié chez Libre et Solidaire en février 2017, Tony Ferry et moi-même revenons sur cette prétendue nature de cette institution des hiérarchies. Analysant de proche en proche la vie des animaux, de la mangouste à la girafe et du gorille au loup de Sibérie, point de hiérarchie naturelle, mais des animaux qui s'efforcent de vivre, des parents protégeant leurs petits ou des individus autonomes en quête d'amitié. Le livre fouille aussi les racines du harcèlement, du patriarcat, de la parentèle, de l'autorité et de la famille, pour mettre son grain de sel là où tout semblait facile et établi. Rien n'y fait. La domination n'est pas autre chose qu'une violence, qu'un rapport de force dont la nature n'est pas créatrice. Et non, monsieur Thoreau, non, monsieur la Boétie, la domination n'est pas due aux pauvres soumis qui se tairaient, mais à l'immense brutalité des hiérarques, à l'immense difficulté de résister. Mais silence ne vaut pas adhésion et les dominés couvent les braises d'une révolte dont les professionnels et les élus de la hiérarchie feraient bien de ne pas sous-estimer la force. La politique réactionnaire du ressentiment n'empêchera jamais rien. Nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes car ils sont d'une matière dont vous ne savez rien. La liberté de vivre.
Ainsi se termine notre émission de Science sans liberté où nous recevions le philosophe Tony Ferry. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi.
Macnoftina, Macnoftina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Macnoftina les avait jetés au vent. À l'automne, la Macnoftina les avait jetés au vent. Macnoftina, Macnoftina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entré en Ukraine en chantant, mais bientôt la Macnoftina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Macnoftina l'a dispersée dans le vent.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges